Europe 1.
16h-18h,
historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Le récit.
Il a laissé son nom au plus célèbre cirque du monde, Pinder.
Pinter, Mathieu. Harold Pinter.
Ah oui, à une lettre près, j'avais bon. Lui, il a choisi la comédie, puis l'écriture, et bien lui en a pris. Considéré désormais comme l'un des plus grands dramaturges du XXe siècle, un écrivain engagé qui s'est dégagé de ses obligations militaires, Stéphane Bern nous raconte Harold Pinter avec un T.
Nous sommes en octobre 1948 à Hackney, un quartier populaire de l'Est londonien, lorsqu'arrive au domicile de la famille Pinter une lettre dont l'expéditeur, mentionné sur l'enveloppe, n'est pas du goût de Harold, le fils de la maison. Le courrier émane en effet de l'armée britannique. Il annonce qu'Harold, qui vient tout juste d'avoir 18 ans, qui est beau comme un enfant, fort comme un homme, est appelé sous les drapeaux au vert.
Oh, vous l'avez amené finement,
son service militaire. Harold Pinter ne prend même pas une seconde de réflexion et s'empresse de répondre à l'administration pour manifester son opposition. Au sortir de la Deuxième Guerre mondiale et au tout début de la guerre froide, dans une ambiance où la fibre patriotique ne cesse d'être vantée et sollicitée, la position d'objecteur de conscience qu'adopte le jeune Pinter est quelque peu iconoclaste. Mais il est hors de question qu'il participe à une quelconque entreprise militaire. L'idée d'un réarmement de l'Europe lui paraît ridicule. Harold Pinter est trop conscient des souffrances et des horreurs de la guerre. Il se rappelle les bombardements sur Londres en 1940. Il n'oubliera jamais le bruit, la fureur. Il n'oubliera pas qu'il a dû, comme beaucoup, se terrer dans des caves, puis fuir la ville avec sa famille d'origine israélite. Alors non, jamais il ne tombera dans l'enthousiasme guerrier d'une époque qui semble vouloir courir à sa propre perte. Évidemment, les choses ne sont pas si simples et son refus, il le sait, va entraîner une convocation devant le tribunal militaire, ce qui ne manque pas de se produire quelques semaines plus tard. Pinter est conscient qu'il risque la prison et part donc à son procès en prenant soin d'emmener sa brosse à dents. Par chance, le magistrat officier est clément et Pinter s'en sort avec une simple amende de 30 livres, une coquette somme pour l'époque tout de même. Le prix donc de ce qu'il considère comme son premier acte politique, et qui ne sera pas le dernier. De retour chez lui, Harold Pinter trouve des petits boulots pour payer l'amende et surtout s'occupe à ce qu'il aime le plus, le théâtre et la littérature. Il s'est très jeune passionné pour de nombreux textes et auteurs. Il a joué Macbeth au lycée et a d'ailleurs, avant son appel sous les drapeaux, intégré une école de théâtre qu'il a fini par quitter, plus par indisposition face au cadre scolaire que par désintérêt. Mais il continue à lire, à écrire des poèmes et même jouer la comédie avec des amis. En 1951, Pinter s'inscrit dans une autre école d'art dramatique et se lance dans une carrière de comédien en tournée dans tout le pays. En 1957, Harold Pinter a 27 ans. Il écrit sa première pièce, La Chambre, mais c'est son troisième opus, Le Gardien, qui lance véritablement sa carrière de dramaturge. Dans les années 60, il développe son style, inspiré de Ionesco ou de Beckett pour l'aspect absurde et inspiré de son milieu défavorisé pour le parler populaire qu'il n'hésite pas à utiliser. Il est associé par la critique au mouvement d'idées, jeunes hommes en colère, qui font parler les personnages comme dans la vie plutôt que comme dans les livres, loin de la grandiloquence bourgeoise du théâtre à la papa. Au fil de ses créations, des thèmes de prédilection émergent. La domination des uns sur les autres, l'hypocrisie du couple autant que de la société, l'artificialité des valeurs qu'il prend un malin plaisir à renverser et toujours l'incertitude de la vérité ou la difficulté de la communication. Tout cela s'incarne dans un théâtre parfois inquiétant, dans lequel les personnages brouillent les pistes d'une intrigue qui ne se déploie jamais vraiment, mais où petit à petit se dessinent des rapports d'oppression, où les masques tombent pour laisser apparaître la violence. C'est dans l'apparente simplicité des dialogues, et encore plus dans les silences, que se créent des tensions. « Nous ne communiquons que trop bien par notre silence, dit Pinter, parce que nous ne disons pas. » Son style singulier donnera même un adjectif « pinteresque » officiellement intégré au dictionnaire. À partir des années 70 et plus encore 80, tout devient chez Harold Pinter de plus en plus politique. L'actualité internationale y est pour quelque chose, il faut bien avouer. De Cuba au Chili, du Nicaragua à l'Afrique du Sud, de Ronald Reagan à Margaret Thatcher, partout l'injustice et la brutalité du pouvoir nourrissent sa pensée et sa révolte. En tant qu'écrivain, Harold Pinter dit vouloir fracasser le miroir, car c'est de l'autre côté que la vérité nous fixe des yeux. En tant qu'homme, il ne manque jamais de s'insurger. Comme en ce mois de mars 1985, alors qu'il visite la Turquie avec l'écrivain américain Arthur Miller, passionné par le Pan American Center, une ONG qui lie la littérature à la défense des droits de l'homme. dans le pays qui est alors une dictature militaire. Il rencontre des écrivains dissidents qui racontent les persécutions, les emprisonnements et la torture. Le voyage se termine par une réception très officielle au sein de l'ambassade américaine d'Ankara. À peine a-t-il entamé les hors-d'œuvre que Harold Pinter engage la conversation au sujet de la torture dans les prisons du dictatorial régime, alors soutenu par les États-Unis. Ses interventions tranchent au milieu des mondanités, mais Pinter ne se tait pas et continue de demander aux invités et diplomates comment une démocratie peut soutenir un régime si répressif. Alors qu'il admire quelques peintures après le repas, l'ambassadeur l'interpelle et le prie de comprendre la situation. Les Russes ne sont pas loin, il y a des réalités militaires à considérer. La réponse de Pinter est sans appel, avec toute l'impudence qui deviendra légendaire. La réalité qui m'intéresse est celle du courant électrique sur les parties génitales. L'ambassadeur s'offusque et le prie de quitter les lieux. Arthur Miller se joint à lui par solidarité. Pinter dira plus tard qu'être expulsé de l'ambassade américaine d'Ankara fut l'une des plus grandes fiertés de sa vie. Pinter pense et agit ainsi face à ce qui le scandalise. Et lorsqu'en 2005, il reçoit le prestigieux prix Nobel de littérature, son discours porte essentiellement sur les États-Unis et leur impérialisme meurtrier, autant que sur la veulerie du Premier ministre britannique alors en poste, plutôt que sur la littérature. Harold Pinter annonce peu après que 29 pièces, 22 scénarios, un roman et des dizaines de poèmes sont bien assez. Il en a fini avec l'art et ne veut plus désormais agir que par la politique dans un monde dont il dit lui-même qu'il agonise. Mais il n'en aura malheureusement pas beaucoup de temps. Lui aussi est en train de mourir, un cancer le ronge. Sa disparition en 2008 met un terme à l'effronterie et la virulence de ses combats politiques, mais le fait en revanche entrer au panthéon des plus grands auteurs du XXe siècle et ses œuvres, jouées sur toutes les scènes du monde, continuent de bousculer les consciences.